à voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Si Henri IV reste dans la mémoire des Français le bon roi à la personnalité truculente, souvenons-nous de la poule aux pots et opportuniste, souvenons-nous de Paris vaut bien une messe, ce portrait, en forme de caricature, reste largement réducteur et insuffisant. C'est pourquoi Canal Academy vous propose, grâce à cette émission qui fait partie de la série « Les académiciens racontent l'histoire », de cerner au plus près le roi et l'homme qui a régné durant 21 ans sur la France en lui donnant un nouvel élan. Comme le titre de cette série l'indique, les académiciens racontent l'histoire, nous allons tenter de saisir les divers aspects du roi Henri IV en compagnie d'académiciens historiens célèbres du passé, tels que François-René de Chateaubriand, Jules Michelet, Victor Duruy et André Mauroy. Des lectures d'extraits de leurs ouvrages historiques reconnus et réputés vont faire revivre la pensée, le travail de ces quatre grands esprits qui ont œuvré à des siècles différents au sein de l'Institut de France. Canal Academy vous propose en effet quatre regards, quatre styles, quatre points de vue, quatre sensibilités différentes émanant de ces grands auteurs historiens sur la vie et l'œuvre politique d'Henri IV, assassiné en 1610, oui, il y a donc tout juste 400 ans. Nous allons commencer cette évocation d'Henri IV par la fin de sa vie, par l'histoire de ce régicide commis par Ravaillac en 1610, et c'est l'académicien Jules Michelet qui va exposer ces faits. Avant de retrouver Henri IV et Ravaillac, quelques rappels concernant Jules Michelet. Jules Michelet est né le 21 août 1798 à Paris. Il est mort le 9 février 1874 à Hyères. La famille de Michelet était de tradition huguenote. Son père était maître imprimeur et le jeune Michelet assista son père concrètement aux travaux d'impression. Sa mère, Angélique Constance Millet, était originaire d'une famille paysanne des Ardennes. Ses parents s'imposèrent des sacrifices pour envoyer le jeune Jules étudier au célèbre lycée Charlemagne, où il se distingua. Il réussit l'agrégation des lettres et fut bientôt nommé professeur d'histoire. Bien qu'il possédât des idées politiques fermes que lui avait transmises son père, un républicanisme fervent, teinté de romantisme libre-penseur, Michelet était avant tout un homme de lettres et un enquêteur sur l'histoire du passé. Il appartenait à cette école qui pensait que l'histoire devait être avant tout un cours d'enseignement philosophique. Son art de raconter reste un des plus vivants qui ait existé. Ses incessantes recherches dans les sources manuscrites et imprimées étaient des plus minutieuses, des plus laborieuses, mais son imagination vivace et ses préjugés politiques et religieux affirmés lui faisaient tout voir d'un point de vue trop personnel. Sa vision de l'histoire était celle d'un long combat de la liberté contre la fatalité. Ses qualités de visionnaire faisaient réfléchir, mais le rendait de ce fait moins digne de confiance en tant qu'historien. L'histoire, après tout, n'est pas une école de morale, disaient ses détracteurs. L'Académie des sciences morales et politiques lui rendra cet hommage. Héros pour Victor Hugo, charlatan si l'on en croit Sainte-Beuve, Jules Michelet n'oubliera jamais qu'il est sorti du peuple, ce peuple dont il fera le grand acteur de l'histoire de la France. Jules Michelet, mis 30 ans, a achevé son chef-d'œuvre monumental « L'histoire de France », et dont voici justement un extrait qui s'attache à nous faire le portrait de l'assassin d'Henri IV, un certain Ravaillac.
Il y avait à Angoulême, place du duc d'Épernon, un homme fort exemplaire, qui nourrissait sa mère de son travail et vivait avec elle en grande dévotion. On le nommait Ravaillac. Malheureusement pour lui, il avait une mine sinistre qui mettait en défiance, semblait dire sa race maudite. Celle des chicanous de Rabelais ou celle des chafourés, hypocrites et assassins. Le père était une espèce de procureur ou, comme on disait, solliciteur de procès. Lui, le fils, avait été valet d'un conseiller au Parlement et ensuite homme d'affaires. Mais quand les procès manquaient, il avait des écoliers qui le payaient en denrées. Bref, il vivait honnêtement. Il avait eu de grands malheurs. Son père, ruiné, le père et la mère séparés. Enfin, un meurtre s'étant fait dans la ville, on s'en prit à lui, uniquement parce qu'il avait mauvaise mine. On le tint un an en prison. Il en sortit honorablement acquitté, mais endetté, ce qui le remit en prison. Là, seul et faisant maigre chair, il advint que son cerveau creux commença à s'illuminer. Il faisait de mauvais vers, plats, ridicules, prétentieux. Du poète au fou, la distance est minime. Il eut bientôt des visions. Une fois qu'il allumait le feu, la tête penchée, il vit un sarment de vigne qu'il tenait s'allonger et changer de forme. Le sarment jouait un grand rôle en affaire de sorcellerie. Un plus modeste aurait craint une illusion du diable. Mais celui-ci, orgueilleux, y vit un miracle de Dieu. Ce sarment était devenu une trompe sacrée d'archange qui lui sortait de la bouche et sonnait la guerre sainte, car de sa bouche, à droite et à gauche, s'échappaient des torrents d'hosties. Il vit bien qu'il était destiné à une grande chose. Il avait été jusque-là étranger à la théologie. Il s'y mit, lut, étudia. Mais une seule et unique question, le droit que tout chrétien a de tuer un roi ennemi du pape. Qui lui prêta ses lectures? Qui le dirigea? C'est ce qu'on n'a pas voulu trop éclaircir au procès. Tout au moins, il en avait bien profité et était ferré là-dessus. À sa sortie de prison, il confia ses visions et le bruit s'en répandit. On fit savoir au duc d'Épernon qu'il y avait dans sa ville d'Angoulême un homme favorisé du ciel, chose rare alors. Il l'apprécia, s'intéressa à Ravaillac et le chargea d'aller solliciter un procès qu'il avait à Paris. Il devait, sur son chemin, d'abord passer près d'Orléans, au château de Malesherbes, où il eut des lettres du père Entragues et d'Henriette. Ils lui donnèrent leur valet de chambre, qui le fit descendre à Paris, chez la dame d'Escomand, confidente d'Henriette. Celle-ci fut un peu effrayée de cette figure. C'était un grand homme et fort, charpenté vigoureusement, de gros bras et de mains pesantes, fort bilieux, roux de cheveux comme de barbe, mais d'un roux foncé et noirâtre qu'on ne voit qu'aux chèvres. Cependant, il le fallait, elle le logea, le nourrit, le trouva très doux, et se repentant de son jugement sur ce bon personnage, elle le chargea même d'une petite affaire au palais. Il resta 2 mois à Paris. Que fit-il ensuite? La garde nous l'apprend. Il alla à Naples, pour le duc d'Épernon. Il y mangea chez Hébert, et lui dit qu'il tuerait le roi. C'était le moment, en effet, où le roi avait garanti la Hollande et refusé le double mariage d'Espagne. Il ne restait qu'à le tuer. Ravaillac, de retour à Paris, vit la d'Escomand, à l'Ascension et à la fête Dieu de 1609. Il lui dit tout, mais avec des larmes. Plus près de l'exécution, il sentait d'étranges doutes et ne cachait pas ses perplexités. Cette d'Escomand, jusque-là digne confidente d'Henriette, femme galante et de vie légère, était pourtant un bon cœur, charitable, humain. Dès ce jour, elle travailla à sauver le roi. Pendant une année entière, elle y fit d'étonnants efforts, vraiment héroïques, jusqu'à se perdre elle-même. Le roi pensait à toute autre chose. Sa grande affaire était la fuite de Condé. La reine se boucha les oreilles aux avis que la d'Escomand s'efforçait de faire arriver. Celle-ci avait été au Louvre, lui avait fait dire, par une de ses femmes, qu'elle avait à lui donner un avis essentiel au salut du roi, et, pour assurer d'avance qu'il ne s'agissait pas de choses en l'air, elle offrait, pour le lendemain, de faire saisir certaines lettres envoyées en Espagne. La reine dit qu'elle l'écouterait. Et la fit languir 3 jours, puis partit pour la campagne. Bien étonnée d'une si prodigieuse insouciance de la reine, la pauvre femme pensa que le confesseur du roi peut-être aurait plus de zèle. Elle alla demander coton aux jésuites de la rue Saint-Antoine. Elle fut assez mal reçue. On lui dit que le père n'y était pas, rentrerait tard et partirait de grand matin pour Fontainebleau. Désolée, elle s'expliqua avec le père procureur, qui ne s'émut pas, fut de glace, ne promit pas même d'avertir Coton. Dit, « Je demanderai au ciel ce que je dois faire, allez en paix et priez Dieu. Mais mon père, sinon tue le roi, mêlez-vous de vos affaires. » Alors elle le menaça, il se radoucit. « J'irai, dit-il, à Fontainebleau. » Y alla-t-il ? On l'ignore. Ce qu'on sait, c'est que l'obstinée révélatrice fut arrêtée le lendemain. Incroyable coup d'audace. Ceux qui donnèrent l'ordre étaient donc bien appuyés de la reine. Ou bien, sûrs que le roi mourrait avant que l'affaire vînt à ses oreilles. La d'Escommant était si aveugle que du fond de sa prison, d'où elle ne devait plus sortir que pour être mise en terre, elle s'adressa encore à la reine. Elle trouva moyen d'avertir un domestique intime, qui alors n'était qu'une espèce de valet de garde-robe, mais approchait de bien près l'apothicaire de la reine. Sans nul doute, la vie pénétra, mais trouva fermée la porte du cœur. Ravaillac a dit, dans ses interrogatoires, qu'il se serait fait scrupule de frapper le roi avant que la reine fût sacrée, et qu'une régence préparée eût garanti la paix publique. C'était la pensée générale de tous ceux qui machinaient, désiraient la mort du roi. Le premier était Concini. Il mit toute son industrie à hâter ce jour. Ni nuit, ni jour, la reine ne laissa au roi de repos qu'il n'eût consenti. Elle disait que, s'il refusait, on verrait bien qu'il voulait lui préférer la princesse, divorcée pour l'épouser. Le roi objectait la dépense, il lui fallut pourtant céder. Elle fit une entrée magnifique, fut sacrée à Saint-Denis. Le roi, au fond assez triste, plaisantait plus qu'à l'ordinaire. Quand elle rentra dans le Louvre, couronnée, en grande pompe, il s'amusa à lui jeter du balcon quelques gouttes d'eau. Il l'appelait aussi, en plaisantant, Madame la Régente. Elle prenait tout cela fort mal. En réalité, il lui avait témoigné peu de confiance, la faisant, non pas régente, mais membre d'un conseil de régence sans qui elle ne pouvait rien, où elle n'avait qu'une voix, qui ne devait peser pas plus que celle de tout autre membre. Sully dit expressément que le roi attendait de ce sacre les derniers malheurs. Il était dans un abattement qui étonne quand on songe aux grandes forces qu'il avait, aux grandes choses qu'il était prêt d'accomplir. La Savoie l'avait retardé, il est vrai. Le pape tournait contre lui et travaillait pour l'Autriche. Cependant, il était si fort, il avait tant de vœux pour lui, tant d'amis chez l'ennemi, qu'il ne risquait rien d'avancer. Qui lui manqua ? Son propre cœur. C'est un dur, mais un haut jugement de moralité, une instruction profonde que cet homme aimable, aimé, invoqué de toute la terre, mais faible et changeant, qui n'eut jamais l'idée du devoir, tomba à son dernier moment, s'affaissa et défaillit. Il avait eu toujours besoin de plaire à ceux qui l'entouraient, de voir des visages gais. Toute la cour était sombre, manifestement contre lui. Il avait eu besoin de croire qu'il était aimé du peuple. Il l'aimait. Il le dit souvent dans ses lettres les plus intimes. Malgré des dépenses trop fortes de femmes et de jeux, l'administration était sage et au total économe. L'agriculture avait pris un développement immense. Le roi croyait le peuple heureux. En réalité, tout cela ne profitait guère encore qu'aux propriétaires du sol, aux seigneurs laïcs, ecclésiastiques. Ils vendaient leur blé à merveille, mais le pain restait très cher et le salaire augmentait peu. On vivait avec 2 sols en 1500. En 1610, on ne vivait plus avec 20, qui font 6 francs d'aujourd'hui. L'ambassadeur d'Espagne les donnait à chacun de ses domestiques et ils se plaignaient de mourir de faim. Sans savoir tout le détail de ces mots, le roi entrevoyait cette chose triste. Que le peuple souffrait, gémissait et qu'il n'était pas aimé. Une scène lui fit impression. Un mendiant vient prendre le roi aux jambes. Lui dit que sa sœur, ruinée par l'impôt et désespérée, s'est pendue avec ses enfants. Forte scène, et qui aurait mérité d'être éclaircie. Le roi venait au moment même de retirer deux impôts. On n'en dit pas moins dans Paris qu'il était dur et sans pitié. Un jour que le roi passait près des innocents, un homme en habit vert, de sinistre et lugubre mine, lui cria lamentablement « Au nom de notre Seigneur et de la très sainte Vierge, sire, que je parle à vous !» On le repoussa. Cet homme était Ravaillac. Il s'était dit qu'il était mal de tuer le roi sans l'avertir. Et il voulait lui confier son idée fixe, qui était de lui donner un coup de couteau. De plus, il lui eut demandé si vraiment il allait faire la guerre au pape. Les soldats le disaient partout, et de plus, qu'il ne ferait jamais guerre dont il fût si aise. Troisièmement, Ravaillac voulait savoir du roi même ce que lui assuraient les moines, que les Huguenots préparaient le massacre des bons catholiques. Tout cela faisait en lui une incroyable tempête. Une violente plaidoirie se faisait dans son cœur, un débat interminable. Il semblait que le diable y tint sa cour plénière. Souvent, il n'en pouvait plus, était aux abois. Une fois, il quitta sa mère, son école. S'alla réfugier dans un couvent de feuillants, mais ils n'osèrent le garder. Il eût voulu se faire jésuite. Les jésuites le refusèrent, sous prétexte qu'il avait été dans un couvent de feuillants. Il ne cachait guère sa pensée. Demandait conseil. Il parla à un aumônier, à un feuillant, à un jésuite. Mais tous faisaient la sourde oreille et ne voulaient pas comprendre. Au feuillant, il avait demandé « Un homme qui voudrait tuer un roi, devrait-il s'en confesser ?» Un cordelier auquel il parla en confession de cet homicide volontaire, sans rien expliquer, ne lui demanda pas même ce que ce mot signifiait. C'est une chose effrayante de voir que, sur la mort du roi, tous entendaient à demi-mot, ne se compromettaient pas, mais laissait aller le fou. Ainsi rejeté, livré à lui-même, il eut fait le coup. Sans une idée qui lui vint et fit qu'il l'ajourna. Il songea que c'était le temps de Pâques, et que c'était le devoir de tout catholique de communier à sa paroisse. La sienne était à Angoulême. Il quitta Paris, et y retourna. Mais là, à la communion, il sentit qu'un cœur tout plein d'homicides ne pouvait pas recevoir Dieu. Il voyait d'ailleurs sa dévote mère, bien plus agréable au ciel et plus digne, qui communiait. Il s'en remit à elle de ce devoir, laissa le ciel à sa mère et garda l'enfer pour lui. Lui-même a raconté cela plus tard, avec d'abondantes larmes. Au pied même de l'autel, pendant la communion, sa résolution lui rentra au cœur et il s'y sentit fortifié. Il revint droit à Paris, c'était en avril 1610. Dans son auberge, il empoigna un couteau, le cacha sur lui. Mais dès qu'il l'eut, il hésita. Il reprit machinalement le chemin de son pays. Une charrette, sur la route, allait devant lui. Il y épointa son couteau, en cassa la longueur d'un pouce. Arrivé ainsi à Étampes, un calvaire qui était aux portes lui montrait un Ecce Homo, dont la lamentable figure lui rappela que la religion était crucifiée par le roi. Il y revint plein de fureur, et dès lors, n'hésita plus. De peur pour lui-même, aucune. Un chanoine d'Angoulême lui avait donné un cœur de coton, qui, disait-il, contenait un morceau de la vraie croix. Il est probable qu'on voulait l'affermir, le rassurer. Un homme armé de la vraie croix pouvait croire qu'invisible, ou défendu par le ciel, il traverserait tout danger. Ravaillac, si indiscret, était fort connu. Et, de même qu'on avait su fort longtemps que Maurevers, l'assassin gagé des Guises, devait tirer sur Coligny, on ignorait nullement que le tueur du roi fût dans Paris. Le dimanche, un ancien prêtre, devenu soldat, rencontrant près de Charenton la veuve de son capitaine qui allait aux prêches, lui dit de quitter Paris, qu'il y avait plusieurs bandits apostés par l'Espagne pour tuer le roi, l'un, entre autres, habillé de vert, qu'il y aurait grand trouble dans la ville et danger pour les Huguenots. Il paraît que même en prison, ces bruits circulaient et parvinrent à la Descommand. Acharnée à sauver le roi, elle décida une dame à avertir un ami de Sully à l'arsenal. Cette dame était Mademoiselle de Gournay, fille adoptive de Montaigne. Sully, sa femme et l'ami reçurent l'avis, mais délibérèrent, le transmirent au roi en notant les noms. Sans doute de d'Épernon, de Concini et de Lorraine. Si le roi en veut savoir davantage, dirent-ils, on le fera parler aux deux femmes. La Gournay, et la d'Escommant. La vie devenait dès lors fort insignifiant. Le roi, qui en avait reçu tant d'autres, n'y fit aucune attention. Il était si incertain, si flottant, si troublé, qu'il ne distinguait guère ses amis de ses ennemis. Il montra de la confiance à Henriette d'Entragues, lui renvoyant à elle-même un homme qui l'accusait, et il montra de la défiance à Sully, ne voulant pas qu'il fît d'avance un traité avec une compagnie qui eût assuré les vivres. Ce renversement d'esprit semblait d'un homme perdu qui va à la mort. Tout en se moquant de l'astrologie, il craignait ce moment prédit, le passage du 13 au 14. Il devait partir dans 3 jours, justement comme Coligny, quand il fut tué. La nuit du 13, ne pouvant trouver de repos, cet homme si indifférent se souvint de la prière et il essaya de prier. Le matin du vendredi 14, son fils Vendôme lui dit que, d'après un certain Labrosse, ce jour lui serait fatal, qu'il prit garde à lui. Le roi affecta d'en rire. Vendôme en parla à la reine, qui, plus ébranlée qu'on eût cru, par une contradiction naturelle, supplia le roi de ne pas sortir. Il dîna, se promena, se jeta sur son lit, demanda l'heure. Un garde dit « 4 heures ». Lui dit qu'il devrait prendre l'air, que cela le réjouirait. « Tu as raison, qu'on apprête mon carrosse. » Quand la voiture sortit du Louvre, il ne dit pas d'abord où il allait. Et il ne voulut pas de garde pour ne pas attirer l'attention. Il allait à l'arsenal, voir Sully malade. Mais selon une tradition, il eut l'idée de passer d'abord chez une beauté célèbre, la fille du financier Paulet, une rousse qu'on appelait la Lionne, pleine d'esprit et de voix charmante. Un jour qu'elle chantait, 3 rossignols, disait-on, en moururent de jalousie. Le roi avait pensé à elle pour en faire la maîtresse de son fils Vendôme, une maîtresse qui l'eût relevée, qui en aurait fait un homme, un Français, qui l'eût retiré de ses vilains goûts italiens. Il faisait beau temps, le carrosse était tout ouvert. Le roi était au fond, entre Monsieur de Montazon et le duc d'Épernon. Celui-ci occupait le roi à lire une lettre. À la rue de la Ferronnerie, il y eut un embarras. Une voiture de foin et une de vin. Ravaillac, qui suivait depuis le Louvre, rejoignit, monta sur une borne et frappa le roi. « Je suis blessé !» En jetant ce cri, le roi leva le bras, ce qui permit le second coup, qui lui perça le cœur. Il mourut au moment même. D'Épernon jeta dessus un manteau, et disant que le roi n'était que blessé, il ramena le corps au Louvre. Une tradition veut qu'au moment où le coup fut fait, Concini ait entrouvert la chambre de la reine et lui ait jeté ce mot par la porte.
Ammazzato.
Nous n'aurions pas rappelé cette tradition si la reine elle-même n'eût redit ce mot avec un accent de remords, de reproche, lorsque Concini fut à son tour assassiné.
Vous venez donc d'écouter une lecture d'extrait de texte écrit par Jules Michelet. Cette série d'émissions « Les académiciens racontent l'histoire » vous propose maintenant la lecture d'extrait de texte écrit par André Monroy de l'Académie française. Des textes grâce auxquels le portrait d'Henri IV va se poursuivre. L'académicien romancier, essayiste, critique, littéraire, historien de la littérature, André Monroy, est né à Elbeuf le 26 juillet 1885. Il est décédé le 9 octobre 1967. André Monroy fut l'élève d'Alain, lequel exerça sur sa formation une influence essentielle. Anglophone et angliciste, ce jeune licencié en lettres allait servir pendant la Première Guerre mondiale comme officier de liaison auprès de l'armée britannique. De cette expérience, il devait tirer 2 romans humoristiques, « Les silences du colonel Brumble » en 1918, qui le rendirent immédiatement célèbre, et « Les discours du docteur O'Grady » en 1921. La guerre finie, André Monroy devait se consacrer pleinement à la littérature et produire une œuvre étonnamment nombreuse. André Monroy fut élu à l'Académie française le 23 juin 1938. Il écrivit dans ses mémoires « Une réception à l'Académie est une des belles cérémonies françaises. Tout concourt à sa grandeur, l'ancienneté de l'édifice, l'étrangeté de sa forme, l'exiguïté de la salle, la qualité du public, l'appareil militaire, le vocabulaire traditionnel et parfois la qualité de l'éloquence. » André Monroy devait siéger près de 30 ans à l'Académie. Voici donc son regard sur Henri IV.
roi protestant d'un pays catholique, Henri IV devait jouer une partie difficile. Pourtant, il avait dans son jeu des atouts, dont le premier était sa personne, si bien faite pour plaire aux Français. Ceci lui savait gré de dire « Nous ne sommes pas seulement nés pour nous, mais pour servir surtout la patrie. » Il voulait être le roi du pays entier et non d'un parti. « Ceux qui suivent tout droit leur conscience sont de ma religion, et moi je suis de celle de tous ceux qui sont braves et bons. » Il pensait que la douceur et la clémence sont les premières vertus d'un prince. « Tous voudraient que je bandasse l'arc de mes affaires à la corde de leur passion. » Mais le rôle d'un souverain n'est pas d'attiser les passions partisanes. Sans cesse, Henri appelait les Français à l'union. « Nous sommes tous Français et concitoyens d'une même patrie. Partout, il nous faut accorder par raison et douceur et non par la rigueur et cruauté qui ne servent qu'à exciter les hommes. » Il plaisait aussi parce qu'il était brave et bon soldat. « J'ai sauté sur des murailles de ville, je sauterai bien sur des barricades. » Il écrivait non moins allègrement, avec un mélange de verve rustique et de poésie gasconne. Toujours amoureux, il adressait à ses maîtresses de belles lettres ardentes. « Mon vrai cœur, mes chers amours !» Cependant, le roi tenait l'amant en respect. « En ce qui concerne les actes de soldat, je ne demande pas conseil aux femmes. » Ses yeux vifs, son nez busqué, sa barbe carrée, son accent gascon, son charmant esprit et même ses amours de vers galants devinrent vite populaires. Au lendemain de la mort de Henri III, il était roi. Mais qui le reconnaissait? Beaucoup de catholiques disaient « Soit, s'il se convertit, et il savait qu'il faudrait en arriver là, que Paris était absolument nécessaire et qu'il n'y entrerait que catholique, que si la France est l'homme, Paris est le cœur, et que comme on lui ferait dire plus tard, Paris vaut bien une messe. Ce qui lui importait était de rester bon chrétien et de conserver sa dignité. Il ne voulait se décider qu'à son heure. « On m'a souvent sommé de changer de religion. Mais comment ? La dague à la gorge. Quand je n'eusse point eu de respect à ma conscience, celui de mon honneur m'en eût empêché. Que diraient de moi les plus affectionnés de la religion catholique si, après avoir vécu jusqu'à 30 ans d'une sorte, ils me voyaient subitement changer ma religion sous l'espérance d'un royaume ? Il promit de s'instruire, de s'éclairer. Ceux qui ne voulaient attendre avaient, dit-il, le droit de le quitter. « J'aurai parmi les catholiques ceux qui aiment la France et l'honneur. » Il les eut en effet, plus une petite armée protestante. Contre lui, la Ligue s'organisait. Le duc de Mayenne, frère du feu duc de Guise, proclama roi sous le nom de Charles X, le vieux cardinal de Bourbon, et se fit lui-même lieutenant général du royaume. À Paris, cette démagogie sectaire exaspérait la noblesse catholique qui s'abstenait. Henri IV sentit qu'il était possible de conquérir son royaume et avec 10 000 hommes se lança dans cette immense aventure. La Ligue avait pour elle le roi d'Espagne, le duc de Savoie, tous les ennemis de la France. Ces monstrueuses alliances choquaient les honnêtes gens. À Paris, les bourgeois qui s'étaient jetés dans un parti catholique s'étonnaient et se lassaient de voir ce parti devenu révolutionnaire. Mayenne lui-même écrivait « Les marchands pensent à leurs affaires et ne veulent pas la guerre et conseillent la paix. » La satire Ménippée décrit la fureur des bourgeois. Chacun avait jadis du blé dans son grenier et du vin dans sa cave, vont-ils répétant, chacun avait sa vaisselle d'argent, sa tapisserie et ses meubles. Maintenant, qui peut se vanter d'avoir de quoi vivre pour 3 semaines si ce ne sont les voleurs ? Tous souhaitaient l'ordre. Tous attendaient un chef énergique et clément. Or, ce chef existait, et il était le roi. Tout ce que l'on entendait de lui enchantait. « Si vous perdez vos cornettes, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez au chemin de la victoire et de l'honneur. » En 1593, les états généraux du royaume avaient été convoqués à Paris. Les députés furent peu nombreux, mais le peuple semblait attendre d'eux une décision. Si les états choisissaient un roi autre que lui, sa légitimité serait désormais contestée. Si, au contraire, le roi légitime se faisait catholique, Paris et la France, là de ces longues guerres, se donneraient à lui. « Instruisez-moi, » dit-il aux évêques. « Je ne suis point opiniâtre. Vous ferez un beau gain à Dieu, une belle conquête de conscience. » Était-il de bonne foi ? Il avait été catholique 2 fois et 2 fois protestant au cours de sa vie. Expert en abjuration, il s'était fait une sorte de croyance très large et en même temps sincère. Il ne lui coûtait pas de se rendre aux vœux populaires et, comme il disait en son gascon, de faire le saut. Seulement, il voulait qu'on lui laissât le temps nécessaire. Il donna aux évêques du fil à retordre par ses questions et commentaires, allant jusqu'à traiter de badinerie le culte des saints. Enfin, à Saint-Denis, le 25 juillet 1593, Henri IV, vêtu de blanc, fut reçu au giron de l'église. Il sera sacré à Chartres le 27 février 1594. La Ligue n'avait plus la raison d'être. En mars 1594, après avoir promis une amnistie plénière, le roi entra dans Paris, sa grande ville, et se rendit à Notre-Dame pour y entendre la messe. L'amnistie fut honnêtement observée. Quand la France vit que le roi ne voulait pas de représailles, elle suivit Paris.
Vive Henri IV, vive ce roi vaillant, ce diable à 4 a le triple talent, devoir et de battre, mais d'être un vert galant, devoir et de battre, mais d'être un vert galant.
La pacification de la France, c'était une tâche difficile. Les rancunes étaient vives.
Diable guerre, rancuneux et partie, comme nos pères, chantons en vrais amis, au choc des fers, les roses et les lits, au choc des fers, les roses et les lits.
beaucoup s'indignaient de l'indulgence du roi. « S'il y en a qui se sont oubliés, dit-il, il me suffit qu'ils se reconnaissent et qu'on ne m'en parle plus. » Il acheta même beaucoup de soumissions, disant que cela lui coûtait 10 fois moins que s'il avait employé la force. De son pire ennemi, Mayenne, il paya les dettes, se bornant pour toute vengeance à faire un peu courir à son côté ce gros homme rhumatisant. Il fit la paix avec les Espagnols. Restait à se réconcilier avec le Saint-Siège. Henri, dans cette négociation, fut très ferme et les cardinaux conseillèrent au pape de céder parce que le clergé gallican de France soutenait le roi et que l'on eût risqué le schisme. L'accord se fit sur la base du concordat de 1516. Les libertés de l'Église gallicane étaient maintenues. Restait la question du jeune prince de Condé, qui, protestant, se trouvait être héritier présomptif du trône tant que le roi n'avait pas d'enfant mâle légitime. Il fut convenu que Condé serait élevé dans la religion catholique. Le pape leva alors l'excommunication. Ainsi, la monarchie gardait son autorité sur l'Église de France. Quant aux protestants, la véritable tolérance à leur égard n'était pas encore dans les cœurs. Quelques bons esprits, comme Bodin, avait conçu dès 1577 l'idée de la séparation de l'Église et de l'État. Mais la plupart des catholiques et des protestants souhaitaient encore l'annihilation de leurs adversaires. Henri IV avait espéré que sa conversion entraînerait celle de la masse des protestants. Elle n'en avait rien été. Il lui gardait rancune de son abjuration et continuait à nommer l'Église catholique la bête romaine. Tout ce que le roi obtint des Huguenots, ce fut un armistice, l'édit de Nantes. Cet acte contenait de sages dispositions, droit des protestants à toutes les charges de l'État, exercice du culte dans les lieux et conditions déterminées, droit de tester, constitution du clergé protestant, création au Parlement de Paris d'une chambre de l'édit et au Parlement de Toulouse d'une chambre mi-partie. Certains articles secrets étaient dangereux. Les protestants gardaient 150 places fortes et châteaux, donc ne renonçaient pas à la constitution d'un État dans l'État. Leurs souffrances et les expériences passées font qu'on ne peut les blâmer d'avoir exigé ces sûretés, mais le maintien dans le royaume d'un parti à tendance séparatiste était un danger pour la France. La pacification religieuse n'était pas le seul problème, loin de là. « Vous savez à vos dépens comme moi aux miens, » dit Henri IV au notable de Rouen, « que lorsque Dieu m'a appelé à cette couronne, j'ai trouvé la France non seulement ruinée, mais presque toute perdue pour les Français. Par mes peines et labeurs, je l'ai sauvée. Je la sauverai à présent de la ruine. Il y a fort à faire, partout des ruines. » Dans les villes, la population avait diminué parfois d'un tiers. Les métiers s'étaient arrêtés. L'état des finances était déplorable. « Mes chemises étaient déchirées, » écrit le roi lui-même. « Mon pourpoint est troué au coude. Ma marmite est renversée. Et depuis 2 jours, je dîne et je soupe chez les uns et les autres. » Mais Henri IV savait que ce peuple avait des ressources cachées. Il entreprit bravement de rendre confiance aux Français et de mettre de l'ordre dans ses affaires. Pour cela, il s'appuya surtout sur son compagnon et ami, Maximilien de Béthune, baron de Rosny, qu'il fit en 1606 duc de Sully. Le problème du dauphin était dans la monarchie française toujours l'un des plus sérieux. Or, Marguerite de Valois, depuis longtemps séparée de son mari, ne lui avait pas donné d'enfant. Ce n'était pas certes qu'il ne pût en avoir, car il semait les bâtards à profusion. Ses aventures amoureuses étaient innombrables. L'histoire a relevé plus de 56 noms de ses maîtresses. La plus aimée fut la belle Gabrielle d'Estrée, dont il avait 3 enfants et qu'il souhaitait épouser. Mais si la reine Margot, qui n'avait jamais aimé son époux, était prête à accepter une annulation, elle ne voulait pas que ce fût pour favoriser une mésalliance suivie du couronnement d'une rivale exécrée. Gabrielle mourut subitement, empoisonnée, dirent les uns, victime d'une éclampsie, fut la version officielle. Pour éteindre ses dettes envers le grand-duc de Toscane, Henri IV épousa, en 1600, Marie de Médicis, nièce de ce créancier. Âgée de 28 ans, la Florentine était massive et plantureuse. Toute la cour la surnomma la grosse banquière. Marie de Médicis donna au roi, dès 1601, un fils qui allait être Louis XIII. Le roi ne s'attacha jamais à cette compagne assez sotte et fort jalouse. Les fredaines du roi mûrissant déplurent au peuple autant qu'à son épouse. Ceux qui avaient charmé dans le héros choquaient chez un barbon. Vers la fin du règne, on entendit des plaintes ouvertes. Le libertinage vieillit mal et Henri n'était plus le sage et joyeux Gascon de ses jeunes années. Le 14 mai 1610, comme le carrosse de Henri IV passait rue de la Ferronnerie, un homme sauta sur le marchepied et perça d'un coup de couteau la horte du roi qui lisait une lettre. Il mourut sur le coup. L'assassin Ravaillac parut être un fou sans complice, mais il est prouvé que d'autres complots en 1610 se préparaient. Henri IV, pendant tout son règne, avait été haï par les violents de tous les partis parce qu'il se refusait à être un partisan. Le roi mort, catholiques et protestants, louèrent à l'envi celui qu'ils avaient tant attaqué. 10 générations ont ratifié ce jugement. Et Henri IV demeure aux côtés de Charlemagne, de Jeanne d'Arc et de Saint-Louis, un des héros de la France. Il en représente non l'aspect mystique, mais les aspects courageux, sensés, joyeux, populaires, gaulois et toujours grands.
Canal Académie vous a présenté « Les académiciens racontent l'histoire ». Vous venez d'entendre la voix et l'interprétation du comédien Fernand Guyot dans la lecture des textes extraits de l'œuvre d'André Monroy. L'illustration sonore, le mixage de ces lectures sont signés Zachary Beauvarlet. Quant aux textes de Jules Michelet, voix, interprétation, illustration sonore sont signés WeWalk. Réalisation de ces deux textes, Virginia Crespo. Ne manquez pas notre prochaine émission sur Henri IV avec des lectures de textes écrits par les académiciens François-René de Chateaubriand et Victor Duruy. Ces émissions se trouvent maintenant à télécharger sur le site de Canal Académie. Nous vous remercions de votre écoute.